La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Donald Trump a donc dévoilé hier son plan de résolution du conflit israélo-palestinien et il a fait abondamment réagir la presse du Proche-Orient.
Oui, à commencer par le quotidien libanais L'Orient le Jour qui nous décrit à sa manière cette scène vue hier à la Maison-Blanche, scène surréaliste selon Sulaiman Mardan Bey, avec deux dirigeants, Donald Trump et Benjamin Netanyahou, l'un confronté à une procédure de destitution, l'autre inculpé pour corruption, qui se félicite de marquer l'histoire quand il ne se livre qu'à, je cite, de petits arrangements entre amis. En l'absence criante de tout représentant palestinien, mais aussi des monarchies du Golfe, les deux leaders parmi les plus contestés au monde ont non seulement et sans surprise réaffirmé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale une et indivisible d'Israël, mais ils ont aussi entériné l'annexion de certaines parties de la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée. Ce que retient L'Orient le Jour, c'est l'approche uniquement économique qui est apportée à la question palestinienne. Rien sur ses revendications nationales et politiques, rien sur son droit à l'autodétermination. Le drame palestinien, nous dit-on, n'est vu que sous le prisme de la pauvreté et du terrorisme. À condition de renoncer au second, c'est aussi simple que cela apparemment, les Palestiniens se voient pour promettre l'aumône de 50 milliards de dollars d'investissement. Résumé par l'éditorialiste libanais Issa Gorayeb, ce prétendu plan de paix se résume à une obscène transaction, l'appât de l'argent pour faire oublier leur patrie aux Palestiniens en échange d'un mini Bantoustan. Et Gorayeb de conclure, bon courage sur ce boulevard du délire, messieurs, et gare au chaos.
Des chaos en perspective en effet du côté des Palestiniens qui n'ont pas été invités à la table des négociations de ce soi-disant accord.
Oui, car comme il fallait s'y attendre, le rejet du plan Trump est unanime d'ailleurs côté palestinien dès hier. Comme nous le dit le site The Palestinian Chronicle, la première réaction des officiels de l'autorité palestinienne a été de dire qu'aucune paix ne sera possible sans eux, que tous les Palestiniens doivent s'unir contre la vision imposée par les États-Unis et Israël. Et c'est un mérite d'ailleurs que le Middle East Eye reconnaît à Trump et à Netanyahou. Il donne à toutes les factions rivales de Palestine une raison d'apparaître ressoudées. Hamas, Fatah et FPLP, épaule contre épaule, comme les décrit Mohamed Al-Adjar hier dans les rues de Ramallah, où des drapeaux américains, tout comme des portraits de Donald Trump, ont été incendiés.
On retrouve d'ailleurs ces images sur le site de la chaîne Qatari Al Jazeera.
Oui, Al Jazeera qui donne la parole à ces Palestiniens unanimes donc pour dénoncer le plan présenté hier à Washington comme rien de plus qu'un nouveau Balfour, en référence à la déclaration britannique de 1917 qui avait constitué la première étape vers la création de l'État d'Israël. Dans ce même média, une analyse signée du journaliste arabe israélien Marwan Bishara nous explique que l'arrogance des Américains envers les Palestiniens ne peut que se retourner contre les États-Unis à court terme, tant ce soi-disant deal qui fait offense au précédent processus de paix a tout d'une farce, d'un théâtre de l'absurde. Même sentiment du côté de Shemi Chalef que l'on lit ce matin dans les colonnes de Haaretz à Tel Aviv. Le plan Trump serait risible s'il n'était dangereux et totalement unilatéral. Il n'y a qu'une seule logique et c'est celle de l'humiliation et de la soumission des Palestiniens, écrit le commentateur israélien, rejoint toujours dans les pages opinion d'Haaretz par Anshel Pfeffer, selon qui cette soi-disant Pax Americana est vouée à l'échec. C'est une évidence, mais malgré tout il en restera toujours quelque chose tant elle constitue un feu vert offert à Benjamin Netanyahou pour réaliser son plus grand rêve, celui d'annihiler toute contestation territoriale du Jourdain aux rives de la Méditerranée. Le Times of Israel nous le confirme d'ailleurs. Le gouvernement israélien a annoncé hier soir qu'il allait lancer dès dimanche l'annexion des colonies juives situées en territoire palestinien, en Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain.
Et vous revenez aussi, Camille, sur une information qui a marqué la presse mondiale en ce début de semaine.
Et vous n'avez sans doute pas échappé au déluge d'hommages et d'hagiographies qui ont suivi la mort dimanche dans un accident d'hélicoptère de la superstar du basket américain Kobe Bryant. Ce décès brutal qui a aussi emporté sa fille de 13 ans et 7 autres personnes a choqué l'Amérique et tous les aficionados de la NBA, le basket américain, à travers le globe. Et dans ce contexte d'unanimité du deuil, il y a une journaliste du Washington Post, elle s'appelle Felicia Sonmez, qui a fait entendre un autre son de cloche. Sur Twitter, elle a jugé bon de rappeler des faits, de rappeler que le grand homme dont on saluait la stature, la popularité, le génie sportif et la loyauté aux valeurs de l'Amérique, que Kobe Bryant donc avait aussi une ombre à sa gloire, une accusation de viol portée contre lui en 2003 par la réceptionniste d'un hôtel du Colorado. C'est The Guardian qui nous rappelle les faits. Bryant était descendu seul à l'hôtel. La jeune femme âgée à l'époque de 19 ans l'a accusé de l'avoir forcé à un rapport sexuel non consenti. Il y a eu une plainte, le début d'une enquête criminelle dans laquelle les avocats des Los Angeles Lakers, le club de Kobe Bryant, ont pris soin de bien dévoiler l'identité de la plaignante et de la traîner dans la boue. Malgré les preuves accablantes et sous la pression, la jeune femme a accepté de régler l'affaire au civil, de retirer sa plainte au pénal. Et c'est donc pour avoir rappelé ce passage précis de la vie d'un homme riche et puissant, qui était Kobe Bryant, que la journaliste du Washington Post, Felicia Sonmez, s'est retrouvée elle-même conspuée sur les réseaux sociaux dimanche soir, avant de recevoir un email du grand patron de sa rédaction qui lui annonçait qu'avec son tweet inapproprié, elle avait, je cite, porté atteinte à la dignité et à l'image de son journal et qu'elle était suspendue à effet immédiat de son poste de journaliste. Cette sanction, nous raconte ensuite The Huffington Post, a soulevé l'indignation de la Guilde des journalistes du quotidien, un élan de solidarité professionnelle qui a finalement obligé le Washington Post hier à annoncer la réintégration de Felicia Sonmez, sans toutefois lui présenter des excuses. La journaliste dit à présent que cette réintégration n'efface pas le malaise qu'elle ressent sur la manière dont son journal traite de la question des violences faites aux femmes. Elle-même sait de quoi elle parle pour avoir porté plainte il y a quelques années contre un collègue qui l'avait agressée du temps où elle travaillait au bureau de Los Angeles Times à Pékin. Elle sait ce que peut coûter de donner la parole aux victimes plutôt qu'aux bourreaux.
Merci Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.